Le Grand Dialogue.
Sigi Kanfoba.
Edewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry. Halud Mouli.
Chienne Berry. Sigi Kanfoba.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes en direct de la salle de conférence de la Maison de la Presse pour le Grand Dialogue de ce mardi. C'est pour parler de presse, puisque c'est aujourd'hui même que la communauté internationale célèbre la journée de la presse. Une journée qui ne passe jamais inaperçue ici au Mali, notamment avec l'organisation d'une semaine nationale de la presse. L'édition 2016 de la semaine de la presse se déroule dans un contexte particulier avec notamment la montée de l'extrémisme religieux. Alors, la montée de l'extrémisme, ça préoccupe à tous les niveaux et tout le monde doit donc se sentir concerné par la lutte contre ces phénomènes. Mais disons que cette question se pose, quel peut être l'apport de la presse dans ce combat, elle qu'on appelle le quatrième pouvoir pour sa capacité d'influence sur l'opinion d'une façon générale. C'est à cette question et bien évidemment à bien d'autres que vont répondre nos invités au nom de trois. Ils sont donc Abdramane Keïta, il est le directeur de publication du journal Le Témoin, Aramata Diaouré du journal Le 22 septembre, Soumaïla Guindo, il est de l'organisation des journalistes reporter au Mali, reporter donc du Mali au GRM. L'émission vous est présentée par Seydou Fomba.
Le Grand Dialogue.
Auditrices, auditeurs, bienvenue donc. Le rôle de la presse, c'est donc d'elle que nous allons parler, notamment dans un contexte où la montée de l'extrémisme constitue une menace pour le Mali et beaucoup d'autres pays. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, cette petite question pour donc introduire, qu'est-ce que vous, les hommes des médias, comprenez par extrémisme religieux ou extrémisme tout court, d'aucuns parlent même d'extrémisme violent. Je pose à vous en premier lieu la question, Abdramane Keïta.
Je suis vraiment surpris, très surpris par cette question, mais je vais tenter quand même de répondre. Je pense que l'extrémisme qu'on a eu à l'expliquer de fond en comble ici ce matin veut dire toutes les tendances qui s'écartent un peu des normes, qui s'écartent de la pondération, les tendances jusqu'au boutiste, les tendances qui vont au-delà de tout ce qui est considéré dans la société comme le juste milieu, c'est ce qu'on appelle l'extrémisme. C'est comme ça que je comprends l'extrémisme.
Alors, vous, maintenant, nous allons entendre votre explication, vous, Ramata Diaouré du journal 22 septembre. Comment vous définissez l'extrémisme?
Dans le cas qui concerne, je pense, le Mali, je pense qu'on peut voir l'extrémisme juste sur le plan religieux. Il y a des extrémismes en politique. Mais au Mali, c'est en fait ce fondamentalisme musulman de certains que d'autres appellent le salafisme auquel nous avons été confrontés. Et c'est une manière, je dirais, violente d'essayer d'imposer une certaine vision de la religion. Et dans le cas d'espèce, concernant le Mali, c'est vraiment ça, par le fer et par l'épée, y compris en s'alliant à des personnes avec lesquelles normalement on ne s'allierait pas, et pour imposer un pouvoir de coercition, donc pour obliger tout le monde à aller dans le même sens que vous.
Soumaïla Guindo de l'OGRM.
Oui, moi je trouve que par extrémisme, il faut comprendre toute tendance qui tente d'appliquer strictement les règles originelles d'une doctrine. Comme la grande sœur la disait tout de suite, le cas du Mali peut s'intégrer dans le cadre de la religion. Donc c'est toute tendance à appliquer les règles originelles d'une doctrine, notamment la religion au Mali.
Alors, depuis un certain temps, il y a quelque chose quand même qu'on ne peut pas nier au Mali, c'est la montée de l'extrémisme et notamment l'extrémisme religieux. Alors, vous, les hommes des médias, est-ce que vous avez été surpris par cette montée de l'extrémisme, Abdramane Keïta?
Surpris, pas tellement, puisqu'en réalité, il y a toujours eu ici au Mali des signes annonciateurs, des signes avant-coureurs de cette montée. Et nous avons tous été témoins de l'installation progressive de ces tendances qui ont des ramifications, qui sont des ramifications des tendances au niveau international, sans avoir agi. Donc réellement, il y avait rien de surprenant. Il y a de surprenant que pour les gens, que pour l'opinion qui a été peut-être faiblement informée sur la question.
Et je pense aussi que c'est parce qu'il y a eu aussi un certain laxisme des autorités sur la question, qui n'a pas vraiment pris, qui n'ont pas pris la mesure de la chose et n'ont pas pris le soin d'informer largement les populations et puis sur le phénomène, n'ont pas pris le soin de former et d'éduquer les populations sur les impacts et les influences de cette situation. Donc ce n'était nullement quelque chose de surprenant, mais c'est quelque chose par rapport auquel les gens ont abordé avec un peu trop de retenue. Voilà comme ça, comment moi je perçois. Donc ce n'était pas surprenant.
Ramata Diaoury ?
Oui, c'est pour ce que dira exactement ça. C'est-à-dire que quiconque avait une capacité d'analyse a vu ces événements-là se profiler à l'horizon. Et j'en ajouterai même sur le cas du laxisme de l'État dont il parle, puisque en son temps, c'était sous le régime du président Alpha Omar Konaré. Je me rappelle que ça avait fait grand bruit. Il y a une Dahawa qui s'était installée à Ansongo avec des Pakistanais. Et M. Iyad Agali était déjà de ce combat-là. Et à cette époque, bon, je me rappelle aussi que peut-être pour la seule fois au Mali, on avait expulsé des gens qui étaient là en train de semer une mauvaise graine chez nous. Malheureusement, ça a pris parce qu'après, il y a eu des conjonctions d'autres forces qui étaient allées dans le même sens, venant de l'Algérie. On a eu ces proliférations et ces combats, même autour de certaines mosquées. Il y a quand même des villages où on a vu ici des gens se taper à coups de manche de pioche pour l'installation d'une mosquée, suivant que vous priez de telle manière ou vous priez de telle autre. Et malheureusement, rien n'a été fait par les autorités compétentes pour mettre fin à ça, remettre tout le monde dans son rôle, rappeler la laïcité de l'État, rappeler qu'il n'y a pas de raison de faire des choses comme ça sur dans la vie publique. Et bon, c'était parfaitement prévisible. Je pense que c'est prévisible depuis, disons, facilement une vingtaine, 20 à 25 ans. Et on a vu les choses s'accélérer au fur et à mesure.
Soumaïla Guindo.
Alors, Abdelman Kita qui veut réagir, allez-y.
Rapporter un peu de l'eau à son moulin, qu'en réalité ce n'est pas 20-25 ans, c'est peut-être même, ça remonte même à une quarantaine d'années, même plus, puisque tous ceux qui ont fait leur enfance à Gao savent un peu l'existence d'un certain village qu'on appelait Kadji, où le phénomène se développait déjà, avec un certain villageois, un chef de village qu'on appelait Seydou Drissa, qui faisait sa propre loi religieuse différente de la religion de l'ensemble. Et en son temps, si par rapport à ce que nous apprenons, s'il faut s'en tenir à ce que nous apprenons par les vieilles personnes, les autorités de l'époque ont même agi par des méthodes répressives et qui ont pu calmer la situation, qui a ensuite rebondi plus tard. Donc en réalité, ça remonte à beaucoup plus. C'était sous Moussa Traoré. Donc pour un peu ça remonte un peu à plus loin que ça, ouais.
Soumaïla Guindo de Logira. Effectivement, tous les signaux étaient là, hein, tous les signaux étaient là, sauf que la première grande manifestation de ces salafistes a été constatée lors de l'attaque de Agalog. Quand les militaires ont été attaqués là-bas, le président est personnellement sorti à la télé pour dire que cette fois-ci, il y a des salafistes, il y a des terroristes parmi les rangs. Donc je crois que, comme les deux autres l'ont si bien dit, les signaux étaient là, mais la première grande manifestation et violente, et c'était vraiment lors de l'attaque de Agalog.
Alors, il y a eu donc des signaux, il y a eu des manifestations, la presse a senti les dangers venir, mais cette question à présent, la presse malienne a-t-elle suffisamment alerté?
Bon,
je crois que nous allons commencer par le Drone Kito. Mm-hmm.
Bon, je pense que si. Et si, mais simplement, en réalité, nous n'avons pas une presse assez crédible pour avoir de l'impact sur les institutions. En son temps, je me rappelle lorsque Bel Mokhtar s'installait dans la région de Kidal, et la presse en son temps, moi personnellement, étant journaliste à l'époque de Aurore, rédacteur en chef de Aurore, j'ai eu à alerter sur la présence de Bel Mokhtar, puisque pour la première fois, il y a eu mort d'hommes autour de Kidal, et toutes les tribus de la zone lui ont adressé une lettre commune où on lui demandait de quitter. Ça, c'était encore en 2004-2005. Et ça, la presse en a fait l'écho, mais on n'a entendu aucune mesure que les autorités aient prise à l'époque pour alerter suffisamment les populations, qu'ils aient pris des mesures en adéquation avec l'ampleur de la situation pour lutter contre le phénomène. Donc en réalité, que ce soit par des articles, que ce soit par des petites analyses, que ce soit par des petites annonces qu'ils lancent comme ça, ils ont été alertés. Mais est-ce que nous avons actuellement, nous avons depuis tout temps une presse assez crédible pour être entendue, pour avoir de l'influence sur les institutions de la République? Ça, c'est autre chose. Et la presse a toujours...
Oui, moi, je pense que la presse a alerté, effectivement. La presse a été même, je dirais même le seul corps de métier qui, depuis longtemps, disait « Attention, nous sommes en train d'aller sur une mauvaise pente ». Malheureusement, moi, je ne suis pas très d'accord avec Dra sur le fait que ce soit peut-être un manque de crédibilité de la presse. Je pense surtout qu'il y a un conformisme social qui fait que dès qu'on s'attaque à quelque chose qui a trait à la religion, les gens ont de la retenue à prendre en compte ce que vous dites. Quand vous dites « ces gens-là sont trop extrémistes », c'est comme si vous dites « non, ces gens-là sont... » C'est toute la religion, tous les représentants de cette religion, tous les leaders qui le sont. Et c'est souvent très difficile de se faire entendre. D'autant plus que nous avons malheureusement, et ça c'est regrettable, mais maintenant on en paie les conséquences, eu aussi toute une genre politique qui s'est amusée à faire du populisme autour de la religion, en s'accoquinant, parce que ce n'était même pas plus des alliances, avec des leaders religieux, des gens qui étaient vraiment des leaders de communauté, pour des postes, pour se faire élire, pour différentes choses. Et on a donc utilisé le fait religieux comme un instrument de conquête du pouvoir politique. Et ces gens-là qui arrivaient venaient aussi avec une idée de conquête du pouvoir de manière politique. Donc, quelque part, il y a eu une conjonction, il y a peut-être eu même des fois des collusions entre certains leaders religieux et ces gens-là. Et au niveau des pouvoirs politiques, au niveau des partis politiques, il y a peu de personnes qui ont dit « Attention, nous sommes en train d'aller vers l'extrémisme religieux et c'est très dangereux pour ce pays. » Mais la presse, moi je considère que la presse, en tout cas la presse écrite l'a fait. Maintenant, il est clair que l'impact que la presse écrite peut avoir sur les populations qui, en majeure partie, ne savent pas lire et écrire, ne peut être mesuré que s'il y a le relais, par exemple, des revues de la presse dans les langues nationales et les choses comme ça. Et c'est vrai qu'au tout début, il n'y avait pas encore installé tous ces systèmes dans les radios qui faisaient que les gens pouvaient relayer ce qui se disait au niveau de la presse privée.
Soumaïla Guindo.
Moi, je trouve que, très sincèrement, quand on regarde un peu l'histoire de l'évolution de la presse malienne, la question religieuse en général n'occupait pas une place de choix dans les colonies, sur les antennes. Ça c'était dû peut-être par la sensibilité même de la question religieuse. Rares étaient ces journaux, rares étaient ces radios qui abordaient effectivement cette question de la religion en général. Mais il a fallu attendre quand même cette crise au nord pour que la question s'invite dans les colonnes et sur les antennes. Donc quand la question s'est posée, tout le monde s'en est saisi et c'est devenu le chou gras des confrères.
Alors, studio, autant...
Je pense que...
Très rapidement avant qu'on aille à la pause, allez-y donc.
C'est lui qui veut parler.
Moi, je pense qu'en réalité, c'est pas ça. Je suis pas tellement d'accord. Mm-hmm. Réellement, la presse s'est vraiment fait l'écho de l'évolution et de la progression de ces phénomènes-là.
Chaque fois
qu'il y a eu... Même les prêches sont couvertes par la presse. Chaque année, même les prêches des grands prêcheurs, des grands prédicateurs comme les Ousmane, le Chérif Madani, les gens ont trouvé qu'en réalité, que c'est des choses qu'il faut suivre de près. On l'a souvent relayé. Mais quant à maintenant à avoir la crédibilité, comme je reviens là-dessus, quoi, cette histoire de crédibilité, la crédibilité, peut-être je suis d'accord avec vous que la presse ne l'a pas traité de la façon la plus appropriée. Peut-être que la presse a donné beaucoup plus, si vous voulez, la prépondérance au sensationnel, au lieu de mieux éduquer la situation sur le public sur la chose. Je peux concéder cela. Mais quant à vraiment alerter réellement sur le danger que nous courons en laissant ce phénomène-là ramper dans la société, la presse a suffisamment alerté. Vraiment, très sérieusement, c'est ce que je pense.
Alors, studio Tamani, vous suivez donc le Grand Dialogue, c'est en direct de la salle de conférence de la Maison de la Presse. Dans un instant, nous allons poursuivre ce débat.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Le rôle
rôle de la presse dans la lutte contre l'extrémisme, l'extrémisme religieux et d'autres formes d'extrémisme, c'est donc le sujet du jour. Pour en parler, nous avons invité ici, dans la salle de conférence de la maison de la presse, trois journalistes. Abdramane Keïta, qui est donc le patron d'un journal qui s'appelle Le Témoin, il en est donc le directeur des publications. Ramata Diaouré, qui est du journal Le 22 septembre, et Soumaïla Guindo, de l'organisation des journalistes et reporters du Mali au Jirem. Alors, je le disais, nous parlons donc du rôle, le rôle de la presse dans la lutte contre l'extrémisme. À présent, cette question, nous avons compris que la presse peut bien jouer un rôle non négligeable dans la lutte contre l'extrémisme. Bon, mais écoutez, c'est un rôle qui peut être positif, tout dépend de la façon de s'y prendre. Mais on est tenté de croire aussi que cette même presse peut-être peut contribuer à envenimer les choses en acceptant de faire passer un certain type de message. On en a certainement vu des cas souvent ici au Mali, à Abdramane Keïta.
Oui, effectivement. D'abord, je pense qu'il faut faire la différence entre les presses. Puisque depuis un certain temps, nous constatons l'émergence d'une presse des extrémistes. Donc cette presse n'a pas besoin de passer par la presse ordinaire que nous connaissons, la presse en général, pour véhiculer ces informations. Nous avons des radios et des télévisions aujourd'hui essentiellement consacrées à ces idées-là. Est-ce que vous voyez ? Donc, bon, comme vous l'avez dit, la façon de traiter l'information, de la façon dont dépend beaucoup, un peu, quel qu'en soit, même s'ils ont eux-mêmes leurs propres canaux, et les canaux les plus influents restent quand même la majorité des canaux qui existent. Et je pense qu'il faut faire attention à la façon dont nous traitons l'information. Il ne faut pas risquer de faire l'apologie de l'extrémisme. C'est les comportements que la presse doit normalement adopter. La presse doit vraiment se consacrer à sa fonction éducative pour changer les comportements, pour prévenir les comportements susceptibles de verser dans le truc. Et nous avons les moyens de le faire. Mais toujours est-il qu'en réalité, on a l'impression que c'est ce que les extrémistes ont compris et ils ont actuellement leurs propres canaux. Ils n'ont pas besoin de passer par les autres pour avoir gain de cause, pour atteindre leurs objectifs.
Alors,
bon, c'est vrai que le paysage médiatique est tel aujourd'hui qu'effectivement, avec fort peu de contrôle, avec fort peu de professionnalisme, avec fort peu de sanctions, quelque part, n'importe quel message est susceptible de passer. Et d'autant plus que c'est vrai que créer une radio aujourd'hui, ça ne coûte pas grand-chose. Que nous avons aujourd'hui plein de radios confessionnelles, il faut les appeler par leur nom, qui émettent même sans autorisation souvent, qu'elles sont liées à des groupes de pression religieux qui sont quasiment intouchables, parce qu'il y a aussi cette frange de population qui existe, et que finalement, c'est maintenant que le mal est fait, que l'eau est renversée, qu'on cherche à récupérer la situation. Et chercher à récupérer cette situation sans être, comment dirais-je, très dur et entièrement droit dans ses bottes, à mon avis, ça sera parfaitement impossible. D'autant qu'on a donné des gages. On a, contrairement à ce que peut-être, sauf si j'ai bien compris Dra, mais moi je suis persuadé qu'aujourd'hui, les gens qui ont le plus de pouvoir sur la population sont les leaders religieux. C'est les gens qui peuvent amener les gens n'importe où. Donc il faudrait, et on vient de le commencer il n'y a même pas 2 ans avec le Maroc, commencer à réellement encadrer ce qui se passe dans les mosquées, commencer à réellement contrôler ce qui se dit dans les mosquées, commencer à réellement vérifier ce qui se fait dans les centres de formation coranique, dans les médersas, dans différents endroits qui sont au niveau du privé. Il faudrait que l'État joue réellement son rôle. C'est-à-dire que quand on autorise des gens à s'installer, d'abord, s'ils ne sont pas autorisés, ils n'ont pas le droit de s'installer. Il faut sévir par rapport à ça. Quand les gens sont autorisés à s'installer, il faut qu'il y ait une fonction de contrôle pour éviter que certains messages qui sont dévoyés ne soient transmis par ce biais-là. Et il faut après essayer de faire de la récupération. Nous avons aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, je suis persuadé qu'on a une masse critique de certains jeunes aujourd'hui qui ont déjà été sensibilisés à ce discours extrémiste religieux, à des comportements qui ne sont pas le comportement de la majeure partie des Maliens, des musulmans maliens. Les musulmans maliens sont en majorité des sunnites du rite malékite. Ça, c'est connu. Nous avons déjà des pratiques qui n'ont pas cours traditionnellement au Mali. Et malheureusement, on voit de plus en plus, par le pouvoir de l'argent, et on l'a vu au nord, par la force, des gens amener des gens sur des terrains qui ne sont pas.
la culture musulmane de ce pays, qu'ils n'ont pas la pratique de la religion de ce pays et qu'ils sont entièrement contraires à la pratique de tolérance qui existe chez nous. Parce que la première fonction d'un extrémiste, c'est d'être un intolérant. Malheureusement, nous sommes actuellement, je pense, dans une situation où on ne reviendra plus jamais au statu quo ante. On va être obligé de sévir, d'éliminer de certaines personnes, de mettre d'autres peut-être en prison, et avec énormément de difficultés, parce que le laxisme a fait que, quand on fait le laxisme pendant 10 ans ou pendant 20 ans, ben clairement, les gens qui ont posé ce laxisme considèrent que c'est un dû pour eux. Il est très difficile de les faire revenir à la raison.
Alors, je vais un peu nuancer. Je vais un peu nuancer pour dire qu'en réalité, c'est vrai que le discours extrémiste existe. Et il y a des cas, il y a des milieux où on est en train de mouler, de formater certaines jeunesses, mais en réalité tout cela n'a pas d'impact sans vecteur, sans véhicule, sans être véhiculé par la presse. Bon, c'est là que vraiment entre en compte, entre dans la danse un peu le comportement que nous devons avoir, nous journalistes, face au véhicule, face à ces tendances extrémistes. Voilà, c'est pour recadrer un peu.
Soumaïla Guinou.
Oui, moi, je crois que ici, c'est la responsabilité sociale et professionnelle même du journaliste qui est engagé pour mieux contrôler cette affaire. Responsabilité sociale, parce que nous sommes d'abord des Maliens, nous sommes d'abord des citoyens avant d'être journalistes. Il y a de ces informations qui nous parviennent. Nous ne sommes pas obligés de les consommer comme on les reçoit. On doit pouvoir adopter les informations que nous devons donner aux Maliens. C'est-à-dire, demain matin, vous regardez les journaux seulement, ils vous répliquent automatiquement tout ce que les agences ont dit, par exemple, sur une affaire du Nord. Il n'y a pas un effort de vérification, il n'y a pas un effort de transformer l'information pour être consommée au Mali. Cela implique cette responsabilité professionnelle qui doit partir aussi de la formation des journalistes. Les journalistes doivent être formés et savoir leur responsabilité sociale et professionnelle, et tout cela est cadré par l'éthique et la déontologie de notre métier. Donc je crois que la presse fait bien et belge son rôle, sauf qu'il faut que nous redescendons sur terre et assumer nos responsabilités sociales et professionnelles.
Alors, après vous avoir entendu, on a quand même l'impression que le constat qui est là est un constat assez triste. La presse peut contribuer effectivement à lutter contre l'extrémisme, mais la presse malienne à l'état actuel, bon, il semble qu'il y a quand même assez de problèmes à régler. Alors, qu'est-ce que vous pensez pouvoir envisager pour amener tous les médias maliens, les radios, les journaux, à comprendre qu'il y a certaines attitudes qui peuvent quand même compromettre la lutte contre l'extrémisme? Qu'est-ce qu'on peut envisager en ce sens?
Moi, je pense que c'est d'abord un comportement. Comme m'a dit Soumaïla, il y a la première des choses, c'est être réellement des journalistes. Et malheureusement, les médias dont nous parlions tout à l'heure sont animés par des gens qui ne sont pas des journalistes la plupart du temps.
Excusez, Aramata, vous avez parlé de comportement.
Oui.
Mais puisque ce comportement manque et que des cas de ce genre sont là, c'est assez fréquent, alors faut-il rester là à observer?
Non, je ne suis pas certain qu'il faille rester là. Je suis même certain du contraire. Mais quand je dis qu'il faut adopter un comportement de journaliste, il y a des gens qui sont journalistes de formation, qui connaissent toutes les bases du métier, qui sont de vrais professionnels, mais qui n'ont aucune éthique ni aucune déontologie. Donc, ce n'est pas parce qu'il y aura de la formation, que les gens seront sensibilisés à ces aspects des choses, qu'ils vont appliquer ce que l'on leur demandera de faire. Nous l'avons vu dans le cas des conflits. Comment devrait se comporter un journaliste en période de conflit? Ne pas exercer du feu, de pas verser de l'huile sur le feu. Mais par principe, tout journaliste sensé le sait, mais il y a des gens qui certainement ont certains dividendes qu'ils vont toucher par rapport au fait d'envenimer des situations. Et ça, c'est aussi assez compliqué. Ça, c'est le côté de la profession. Ensuite, c'est le côté d'avoir l'information réellement. Parce que l'accès à l'information, qui est le thème cette année mondiale par rapport à la journée de la presse, est que comment voulez-vous Somaïla a un peu touché ce côté. Comment voulez-vous donner de la bonne information? Comment voulez-vous vérifier l'information que l'on vous donne dès lors que vous n'avez pas accès à des sources fiables ou que ces sources fiables refusent de vous donner l'information? Ça, c'est un deuxième problème. Donc, c'est comme ça que nous avons, malheureusement, des rumeurs qui se transforment en informations. Et ça, c'est... Plus elles seront tendancieuses, plus elles seront dangereuses. Et ça aussi, c'est toujours le retour à la couverture professionnelle des événements qui est important. Ensuite, il faudrait que les journalistes eux-mêmes soient sensibilisés au fait que nous avons un État qui a des caractères qui, normalement, ne devraient plus bouger. Le Mali est une république, c'est une république laïque, c'est une république qui a l'unité de l'État, c'est une république qui a une devise, et c'est la même chose qui est capitale. Il faudrait bien que tout le monde soit conscient de ça. Mais si les journalistes eux-mêmes se mettent au combat, si c'est une partition ici, ou bien si nous allons dans tel sens, on n'est plus journaliste à ce moment-là, on devient un militant, on devient un politique, on devient autre chose. Clairement, les gens ne feront pas le travail qu'ils devraient faire. Sinon, le journaliste normal, formé dans la profession, qui s'est formé dans la profession, qui veut faire son travail avec honnêteté et rigueur, n'a aucune raison d'aider les extrémistes, au contraire. Sa pratique doit lui permettre d'aider même l'opinion publique, l'auditoire, à lutter contre les extrémistes.
Mais s'il n'est pas un journaliste avisé, est-ce qu'il ne peut pas les aider sans l'avoir voulu?
Ah oui, c'est possible. Mais moi, je prétends que si quelqu'un a des doutes dans la profession, il peut s'approcher de personnes qui la maîtrisent mieux que lui pour vérifier qu'il n'est pas en train de commettre des erreurs et que le résultat ne soit pas exactement l'inverse de l'effet recherché.
Nous allons à présent écouter Abdelmane Keïta du témoin.
Je pense qu'en réalité, le bon sens en presse la chose la plus partagée, et cela est beaucoup plus vrai pour la presse que pour les autres. En réalité, bon, c'est qu'on parle de déontologie, en réalité, c'est très souvent des choses par rapport auxquelles nous-mêmes, nous savons en réalité intentionnellement ce que nous sommes en train de faire quand nous le faisons. Bon, si dit, pour revenir à votre question, Fomba, moi je pense qu'en réalité, il faut revoir, pour inverser la tendance, pour mieux lutter contre le phénomène qui est en train de se développer, il faut tout d'abord revoir, elle a déjà affleuré la question, il faut d'abord revoir le cadre législatif qui organise un peu la presse, obligatoirement, puisqu'on ne peut pas se lever à n'importe quel bout de champ, créer des organes de presse, créer des radios, créer des télés et avoir des trucs sans truc. Et je pense que la procédure qu'on nous a annoncée aujourd'hui de relecture de la loi sur la presse sera l'occasion de revoir un peu les conditions de création des organes de presse pour y mettre les garde-fous nécessaires et vraiment nous épargner une certaine race de presse. L'autre truc qu'il faut revoir pour moi, c'est un peu le retour de la crédibilité de la presse. Il faut qu'en réalité le citoyen croie en ce que la presse dit. Depuis un certain temps, ce n'est plus ça. En réalité, on dit que c'est la presse qui l'a dit, d'accord, ça me plaît, mais est-ce qu'en réalité c'est vrai? Ils ont l'habitude de le dire. Il faut que les citoyens sachent que ce que la presse dit est vrai. Et cela ne peut venir qu'en cultivant une déontologie, comme elle a dit, une certaine éthique de la presse. Il faut retourner à la presse aussi son autonomie financière, puisqu'une presse qui n'est pas financièrement autonome est fragile et peut être vraiment une proie facile même aux extrémistes et un vecteur de leurs idées et de leurs opinions. Donc je pense, et il faut encore aussi que la presse soit libérée de la politique. Il faut que la presse soit libérée de la politique, puisque parfois n'importe quel phénomène devient le rempart sur lequel se jouent les guerres, les affrontements politiques. Nous l'avons vu avec le cas du code de la famille. Et tout le monde savait qu'en réalité, c'était un phénomène dangereux pour la laïcité de l'État. Mais puisque c'était quelque chose, c'était vraiment... ce sont des manifestations qui devaient déstabiliser un régime. Certains politiques qui trouvaient leur compte ont été aidés par certaines presses pour asseoir la chose. Voilà un peu comment moi je vois les portes de sortie de cette situation.
Soumaïla Guindo.
Pour moi, ça passe nécessairement d'abord par la formation. Bien que on n'a pas d'école de journalisme public, je crois que la maison de la presse, l'une de ses principales missions, c'est la formation continue des journalistes. les associations de presse qui sont là aussi doivent contribuer à cette formation. En plus de la formation, il faut, comme il a si bien dit, il faut donner les moyens financiers, les moyens financiers aux organes de presse pour pouvoir accéder à l'information en temps réel et à la vraie information. Et s'il y a une chose à ajouter, il faut que l'État mette un système en place, et un système qui va permettre aux journalistes d'aller puiser l'information crédible. Et la crédibilisation que Abdramane parle passera par ça. Parce que tant que nous ne parvenons pas à avoir nos propres informations, de nos propres sources d'informations, tant que nous continuons à tirer nos informations dans les dépêches des agences de presse, nous serons continuellement induits en erreur. Et c'est ce qui se passe malheureusement actuellement. Comme je le disais, je le rappelle, demain matin, tentez de voir les journaux, toutes les informations relatives, à part quelques organes, toutes les informations relatives au grand nord du Mali sont tirées des dépêches, sans vérification.
Juste pour deux mots, oui.
Pour recadrer, pour dire qu'en réalité, on ne peut pas donner les moyens financiers à la presse, mais on peut créer les conditions dans lesquelles la presse peut être financièrement autonome. Je tiens à dire, par exemple, à profiter de votre micro pour dire qu'en réalité, la presse est le seul domaine où le secteur privé est âprement concurrencé par le secteur de l'État. Âprement. Même en termes de publicité, le marché de la publicité est guetté de la même façon, au même titre, par la presse privée que par la presse d'État. Il faut revoir ces choses-là. Il faut revoir un peu pour donner un peu, réellement ramener ce qui appartient à la presse privée pour qu'elle soit réellement libre, pour qu'elle soit vraiment autonome et ne soit pas la proie de vendeurs d'illusions.
Pas certainement pas le même langage. Vous parlez en tant que directeur de publication. Quand je parle de moyens financiers, il ne s'agit pas de financer les organes de presse. Il s'agit de réunir les conditions, les meilleures conditions de travail pour nous, les journalistes d'abord. Voilà. Donc, si vous, en tant que patron de presse, si les conditions sont réunies à votre niveau, vous êtes obligé de réunir les conditions pour les journalistes sur le terrain.
Alors, studio Tamani, la suite de ce débat dans un instant.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. Je rappelle que le débat d'aujourd'hui a lieu en direct donc de la salle de conférence de la maison de la presse, puisque en fait nous parlons de presse. Nous profitons de l'occasion pour saluer quand même le public qui est là dans la salle pour assister à cette émission. Alors je rappelle encore le thème c'est donc le rôle de la presse dans la lutte contre l'extrémisme. Alors nous avons constaté qu'au cours de cette semaine de la presse, il y aura beaucoup de conférences, il y en a eu déjà, certaines sont donc consacré à l'extrémisme sous plusieurs formes. Alors dites-nous maintenant, puisque c'est quand même des conférences qui sont à mon avis essentiellement adressées aux hommes des médias, pensez-vous qu'après cette semaine que les gens ont une meilleure vision par rapport à la gestion de ce genre de situation, des situations qui se rapportent donc à l'extrémisme en Ramadan Djaouri?
L'ambition justement de la création de la CENIP, ça a été à ça. C'est le fait de ne pas se contenter de faire une commémoration événementielle du 3 mai, mais d'essayer de mettre à profit toute une semaine pour mener la réflexion entre confrères et avec des spécialistes de différentes questions. C'est justement un genre de formation continue, c'est aussi un genre de formation. Et ça va même plus loin que le niveau seulement des hommes et des femmes des médias, puisqu'on rencontre même les élèves, qui sont les étudiants qui sont actuellement dans des écoles de formation en communication et en journalisme, pour que justement ce pli soit pris, que les gens soient conscients du fait qu'il y a un certain nombre de dangers, il y a un certain nombre de défis à relever, que ça ne peut être fait que par une plus grande qualité du travail que les journalistes mèneront, et que cette qualité du travail, elle sera renforcée par le fait que justement, ils aient l'occasion de débattre, d'échanger avec des spécialistes des questions, qui leur expliquent comment les choses se passent, qui leur expliquent comment il faudrait faire, qui leur expliquent que la pratique de leur métier demande à ceux qu'ils s'informent eux-mêmes d'abord avant d'informer les autres, qu'ils aillent à bonne source chercher l'information. Et je pense que c'est exactement
l'ambition de l'organisation de la création de la Sainte-Lippe. Nous en sommes qu'à la deuxième du genre, mais l'ambition, c'est ça, faire discuter les gens autour de thématiques pour que les gens prennent conscience de la dangerosité que peuvent avoir leur production à tous les niveaux.
Soumaïla Guino.
Oui, nous espérons bien que cette semaine va beaucoup contribuer à améliorer ce rôle. Mais nous espérons aussi qu'on ne va pas se limiter à une seule semaine, que ça sera continuel. Au-delà même de la semaine de la presse, multiplier les initiatives et du genre pour vraiment recadrer les choses et améliorer les choses.
Abdelhamane Keita.
Oui, je pense que c'est la réalité. Et l'objectif de ces journées, en ce sens, ont été atteints en ce sens qu'elles ont pu créer quand même une certaine opinion, et du moins créer une certaine communion autour d'un thème qui est vraiment d'actualité et qui est vraiment un sujet de préoccupation pour non seulement nous, les hommes, les médias, pour la population, mais également pour les autorités.
Alors, nous allons à présent vous poser la question suivante. Vous avez soulevé beaucoup de problèmes, souligné beaucoup d'obstacles au bon fonctionnement en fait, du métier dans certains domaines, notamment la lutte contre l'extrémisme. Alors, c'est des problèmes réels que vous posez. Est-ce qu'il est arrivé que ces problèmes, vous les mettiez devant en approchant, par exemple, les autorités pour pouvoir compter peut-être sur leur appui, Ramatadia?
Bon, moi, je ne pense pas que notre rôle soit vraiment de les approcher par rapport à un certain nombre de choses. Les problèmes d'insécurité, c'est le rôle des autorités
Pas pour leur demander de l'argent, mais pour au moins attirer leur attention.
Mais je pense que la presse, en tout cas pour la presse écrite, clairement, c'est s'il y a une corporation qui attire toujours l'attention et de tous les décideurs, quels qu'ils soient, qu'ils soient les autorités, que ce soit les autorités nationales, que ce soit les partenaires au développement, que ce soit les. Et attirer leur attention. Maintenant, à quoi est-ce que nos gens sont plus sensibles? Parce que l'opinion publique en général a certainement des centres d'intérêt qui ne sont pas ceux peut-être de certains décideurs. Certains décideurs ont des centres d'intérêt et des intérêts tout court d'ailleurs qui ne sont pas assez obligatoirement des populations. Donc, est-ce qu'il faut se limiter à avoir comme ambition de toucher ceux qui sont en haut de en haut, ou est-ce que le travail des journalistes c'est plutôt de toucher le plus large corpus possible? Moi, je penserais pour la seconde solution.
Abdelhamane Keita.
Oui, moi, je pense qu'en réalité, comme elle a dit, notre rôle, ce n'est pas d'approcher, mais d'alerter. Et d'alerter, et d'écrire, et d'informer, et de sensibiliser, et même d'éviter, peut-être même dans notre rôle de sensibilisation, d'information et de formation, d'éviter la connivence même avec les autorités. Pourquoi les approcher pour ça? Peut-être notre rôle, c'est d'agir sur ceux-là qui peuvent avoir beaucoup plus d'influence sur les autorités, sur l'opinion. Et c'est ce que nous faisons à longueur de journée. Bon, maintenant, avant qu'on agisse sur l'opinion, les autorités peuvent, eux, prendre le devant en prenant en compte l'alerte des médias et corriger un peu ce qu'il faut corriger, redresser ce qu'il faut corriger. Je profite de l'occasion pour dire qu'au contraire, est-ce que nous, au contraire, les autorités nous ont approchés pour savoir quels sont les problèmes que nous avons, que nous avons en traitant de sujets aussi sensibles. Puisque je rappelle au passage que nous avons été quand même les cibles de menaces publiques par des extrémistes qui ont lancé dans des canaux qu'ils vont égorger et qu'ils vont punir, qu'ils vont réprimer tout ce qu'il y a comme journaliste qui travaille, je ne sais pas avec qui, avec un certain... Quelles sont les mesures qui ont été prises par les autorités pour aider la presse à jouer sans pression le rôle qui lui revient dans une société démocratique? C'est à l'inverse, c'est la question que moi je me pose.
Soumaïla Guindo.
Oui, moi je crois que la presse doit compter sur elle-même d'abord. Elle doit compter sur elle-même d'abord. Ensuite, l'appui de l'État va venir, c'est sûr. Si ce que nous faisons chaque jour, on ne demande pas que ça soit apprécié par l'État, mais si les retombées de nos informations sont reconnues par l'État, l'État aussi sera obligé de créer les conditions pour nous. Il ne s'agit pas d'aller démarcher l'État, mais il s'agit de prendre des initiatives. Je le rappelle, la maison de la presse est une fêtière de la presse malienne. L'URTEL, c'est une fêtière. Nous, on peut initier bien des choses comme ça, bien avant ces trois mains-là. De l'éclatement de la crise à aujourd'hui, qu'est-ce que nous, personnellement, on a fait comme initiative? Quelle initiative nous avons prise? Donc, on doit compter sur nous-mêmes d'abord, et ensuite, l'appui de l'État viendra.
Alors, je reviens là-dessus, je rappelle que ça, quand on s'en tient quand même à ce qu'on a entendu de vous, alors on comprend nettement qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de défis qui attendent donc la presse malienne. Mais voyons à présent, il y a quand même une certaine évolution puisqu'il y a de nouvelles structures. On a entendu récemment parler de la HAC, la Haute Autorité de la Communication. Plus récemment, à mon avis, si je ne me trompe, il y a eu un centre de communication gouvernementale aussi qui existe. Dites-nous, alors, ces nouvelles structures, est-ce qu'elles vont apporter quelque chose, un changement quelconque au niveau de la presse malienne?
Bon, concernant la HAC, nous, on estime et on espère qu'elle va effectivement apporter un réel changement et en tout cas une réelle avancée. Mais la HAC est en train de s'installer, elle n'a pas encore entièrement fini de le faire. Et la HAC va être un petit peu l'organe de régulation régalien de l'État. Donc, il va mettre, si vous voulez, en application toutes les dispositions qui sont prises par rapport aux autorisations, par rapport aux errements, par rapport à peut-être à certaines sanctions. Donc, il y a cette installation. Mais dans le même temps, Dra disait qu'on a promis aujourd'hui que la relecture de la loi de 2000 concernant la presse, ça fait des années qu'on en parle. On nous disait même que c'était sur la table de l'Assemblée, ça n'y est même jamais arrivé. Donc, on n'en est pas encore là. Il y a le débat autour de ceux qui ne veulent pas qu'on dépénalise les délits de presse. Il y en a qui veulent qu'on le fasse. Il est clair que nous estimons qu'il faut plusieurs niveaux de régulation. Il y a un niveau de régulation qui est le niveau du judiciaire. Ça, c'est clair que si quelqu'un s'estime diffamé et qu'il va au niveau de la justice, ça fait partie de ses droits. Et la justice devrait pouvoir trancher de manière équitable, même si des fois il y a des doutes. Il y a un deuxième niveau qui est donc, comme je vous ai dit, la HAC, qui est le supra-niveau, si j'ose m'exprimer. Et il y a un niveau de régulation qui est celui de l'autorégulation. Et on se bat actuellement pour avoir beaucoup plus d'autorégulation. Il y avait une structure qui avait été créée pour ce faire, qui malheureusement n'a jamais pu fonctionner convenablement, parce que, pour ça c'est mon point de vue personnel, ces textes de création en faisaient une entité trop lourde pour fonctionner. Donc nous sommes en train de réfléchir à l'instauration d'un tribunal des pairs, qui serait composé uniquement des journalistes, adoubé par l'ensemble des associations de presse, pas seulement les fêtières, qui seraient installées certainement au niveau de la maison de la presse et qui pourraient déjà servir au niveau de la régulation. Dire clairement, quand vous dites clairement à votre vis-à-vis ou à votre ami de grain, ah non, là tu dérailles, ça passe bien. Si quelqu'un d'autre le dit, peut-être qu'il ne l'entendra pas. Donc nous pensons, réfléchissons à tout ça. Les activités de formation, ça continue à être poussé. Nous attendons que le ministère de mettre en œuvre l'école de journalisme, ce qui n'a pas encore démarré. Mais les initiatives sont là, les idées sont là, et je pense que ça va évoluer dans le bon sens.
Il nous reste au moins de 2 minutes. Très rapidement, donc, Abdelmane Keïta.
Je pense qu'en réalité, la HAC résulte des mauvaises expériences que nous avons vécues avec le Conseil supérieur de la communication. Avec la HAC, je pense que nous avons tenté de redresser un peu en corrigeant un peu tout ça. Et je suppose que cette nouvelle autorité va profiter des nouveaux pouvoirs qui lui sont donnés pour vraiment être à hauteur de mission. Mais toujours est-il que cela n'est possible qu'avec l'adhésion de la presse.
Soumaïla Guido, pour terminer.
C'est pratiquement la même chose. Pour la HAC, elle doit jouer pleinement son rôle. Si elle gère son rôle de régulation, j'espère que beaucoup de choses vont changer. S'agissant de la création du centre, il faut les saluer. Il faut les saluer parce que on a tous reconnu ici que l'accès à l'information est fiable est un problème au Mali. On espère que ce centre sera un centre proactif qui ne va pas se limiter à faire des communiqués de presse au lendemain des événements, qui sera proactif, qui sera à la disposition des journalistes.
Voilà, c'est sûr. Donc, c'est à propos que s'achève notre débat de ce mardi. Je rappelle que nos invités étaient Abdelmane Keïta du journal Les Témoins, Ramata Djaouré du journal 22 septembre, Soumaïla Guindo de l'OGRM, à la mise en onde Seydou Mbow, réalisation Ousmane Djadje Touré, présentation Seydou Fomba. Nous saluons une fois de plus le public présent et nous rappelons que cette émission a été réalisée en collaboration donc avec la Maison de la Presse. Nos remerciements vont donc au groupe Renouveau aussi qui nous a aidés pour la captation en vidéo. Donc c'est tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine fois.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chien Nibiri, Halo Dumondi.
Chien Nibiri, Sigi Kafoba.